Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL, il est 10h. Les informations, c'est tout de suite avec vous, Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Flavie, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition. À la une, un débarquement en petit comité. Le D-Day du 6 juin 44 a été célébré ce matin devant seulement quelques centaines de personnes. Nous serons en Normandie dès le début du journal. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique tombé sous les balles françaises. Paris a confirmé sa mort lors d'une opération militaire au nord du Mali. Le gouvernement met la main à la poche. 200 millions d'euros vont être débloqués pour offrir des vacances cet été à 1 million d'enfants. Les détails à suivre. De nouvelles manifestations dans le monde en mémoire de George Floyd. Aux États-Unis, le président Trump suscite un tollé en estimant que la baisse surprise du chômage est un grand jour en pleine célébration des obsèques de la victime. En France, premier week-end sans la restriction des 100 km. Il est donc possible d'être présent pour la réouverture du château de Versailles, à condition d'avoir réservé sur Internet. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Temps assez agité aujourd'hui en France.
Alors c'est vrai qu'on a pas mal de pluie, des pluies assez soutenues depuis plusieurs heures déjà dans le nord-est du territoire. A contrario, on trouve aussi un peu de soleil, il s'agit d'en profiter. Un soleil généreux surtout près de la Méditerranée, mais on a également quelques belles éclaircies à l'arrière de la dégradation, donc entre le nord, le bassin parisien et le nord-ouest. Il y aura quelques averses entre deux dans le courant de la journée. Et puis sinon, on va retrouver donc un ciel très chargé toute la journée du nord-est jusqu'au sud-ouest, avec des pluies surtout dans la partie nord-est et des températures qui restent assez fraîches, 16 degrés au Havre cet après-midi, 17 à La Rochelle, 18 à Paris, 22 degrés pour Toulouse et Annecy, il fera 25 à Grenoble et Perpignan et un maximum de 28 degrés quand même pour Avignon.
Quand même, merci Valérie.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
Et un drôle de D-Day aujourd'hui en Normandie. Pour cause de coronavirus, il a fallu réduire la voilure et de manière plutôt drastique. D'habitude, les anciens combattants des armées alliées se retrouvent pour célébrer la mémoire de leurs compatriotes tombés au front. Le public est également présent, généralement en masse. Et bien pour ce 76e anniversaire du débarquement, changement d'atmosphère, festivités souvent annulées ou organisées à huis clos. Julien Caillard, vous êtes à Colville-sur-Mer, le secteur américain d'Omaha Beach, où une cérémonie va quand même débuter dans un instant, au pied de la colonne de la première division d'infanterie américaine.
Oui, cette cérémonie qui est l'une des rares à ne pas avoir été annulée, elle va se dérouler en petit comité, une quinzaine de personnes seulement. Alors Laurent va la vivre de loin, lui habite à quelques kilomètres, il a tenu à venir en jeep habillé de l'uniforme de la première division d'infanterie américaine, la Big Red One.
Oui, c'était important parce qu'on a des amis belges et anglais qui ne sont pas venus. Pour eux, c'était aussi important que nous, on y soit. Voilà, ils auront chaud au cœur parce que la semaine du 6 juin, c'est l'occasion de commémorer et puis de se retrouver voilà, habillé en soldat américain avec des véhicules d'époque. Quoi. C'était important d'y être. Ouais.
Cette cérémonie à laquelle va participer Charles Norman Shea, 97 ans. Il est probablement le seul survivant du D-Day à prendre part cette année aux commémorations. Cet Amérindien, membre de la Big Red One, avait débarqué ici même il y a 76 ans. Patrick Tomine, le maire de Colville-sur-Mer.
Il a débarqué effectivement dans les premières vagues le matin avec la première division et dans le 16e régiment. Il était infirmier, donc forcément il est très attaché à ce lieu.
Charles Norman Shea qui va prendre la parole dans quelques minutes pour rendre hommage à ses camarades tombés sur cette plage il y a 76 ans.
Merci Julien Caillard en Normandie pour RTL. La cérémonie internationale se déroulera à partir de 14h30 à Vierville-sur-Mer en présence de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et aussi en présence d'ambassadeurs d'autres pays, 9 autres pays dont l'Allemagne. RTL, 10h03, l'armée française au combat cette fois. Les militaires tricolores ont éliminé hier le fondateur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique lors d'une opération dans le nord du Mali. Information confirmée par la ministre des Armées. Abdelmalek Droukdel était le mentor de nombreux groupes djihadistes au Sahel. Il a été tué près de la frontière avec l'Algérie, son pays d'origine. Âgé de 49 ans, le terroriste s'était spécialisé dans les explosifs et la prise d'otages. Et même si son influence avait décliné, il s'agissait d'un combattant redoutable, selon Claude Moniquet, spécialiste en terrorisme.
Droukdel était ingénieur, était quelqu'un bien formé, d'intelligent, réfléchi, capable de concevoir des plans. Il comprenait très bien que la prise d'otage pour un pays comme la France, la prise d'otage français, est réellement une des choses qui nous atteignent le plus. Parce que la prise d'un otage français, ça veut dire qu'on va mobiliser des moyens extrêmement importants pour libérer cet otage. Ça veut dire aussi que ça donne une emprise directe aux terroristes et ça leur donne l'impression qu'à un moment donné, ils peuvent traiter d'égal à égal avec l'État français, ce qui évidemment pour eux est toujours succès.
Claude Moniquet, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Concernant la succession d'Abdelmalek Droukdel, plusieurs de ses proches collaborateurs ont également été neutralisés dans cette opération au nord du Mali, selon les autorités françaises. Dans l'Hexagone, coronavirus ou pas, dans les prochaines semaines, le gouvernement ne veut pas laisser de côté les élèves décrocheurs. Il va donc proposer des vacances apprenantes, un dispositif général pour étudier et s'évader. 200 millions d'euros seront mis sur la table et la mesure concernera 1 million d'enfants. Les détails avec Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse.
Il y a plusieurs dispositifs. Les deux principaux sont le dispositif école ouverte qui va permettre d'accueillir 400 000 enfants avec le matin des cours de rattrapage scolaire et puis l'après-midi des activités sportives, artistiques, culturelles. Et puis l'aide au départ en colonie de vacances pour 250 000 enfants qui pourront partir une semaine en colonie de vacances. Oui, c'est pris en charge à 100%, les familles n'auront rien à payer. C'est très important que la possibilité pour les enfants de partir en vacances soit très large cet été, notamment encore une fois pour des enfants qui sont restés confinés parfois dans des situations familiales difficiles ou tout simplement dans des appartements très exigus. Nous cherchons environ 10 000 animateurs pour les colonies de vacances cet été. Et c'est pour ça que nous mettons une enveloppe de 30 millions d'euros pour cofinancer la formation BAFA qui est nécessaire pour animer des colonies de vacances.
Gabriel Attal, le secrétaire d'État à la jeunesse, joint pour RTL par Jérôme Florin. Une semaine après son lancement, l'application Stop Covid poursuit son développement dans les foyers français. Selon le gouvernement, elle a passé ce matin le cap du million de téléchargements. Une pause dans ce journal de 10 heures avant les États-Unis et le nouvel impair de Donald Trump. Ne bougez pas.
RTL Matin.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
10h et 7 minutes à Paris, pas de manifestation contre les violences policières. Le préfet de police les a interdites aujourd'hui dans la capitale. Un appel à manifester à 17h sur l'esplanade du Champ de Mars a ainsi été lancé sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas autorisé, indique ce matin Didier Lallement, en raison de l'état d'urgence sanitaire. Dès hier, il avait également interdit deux rassemblements prévus à 15h cet après-midi devant l'ambassade des États-Unis. Le président américain, lui, a suscité un tollé dans son pays le jour des obsèques de George Floyd. Donald Trump a rapporté l'événement aux excellents chiffres économiques qui venaient de tomber et auxquels personne ne s'attendait, Philippe Corbet.
Oui, c'est une surprise puisque 42 millions de salariés ont perdu leur emploi depuis le début de la crise sanitaire. On pensait que les chiffres mensuels du chômage allaient continuer à augmenter, mais ils baissent car 2,5 millions d'emplois ont été créés en mai. Certains contestent ce comptage, mais si cette tendance se confirme, si l'économie repart en trombe après s'être arrêtée brutalement, c'est une excellente nouvelle pour les États-Unis et pour le président à 5 mois de l'élection. Il a donc convoqué les journalistes pour longuement s'auto-congratuler, puis il a évoqué brièvement l'importance d'avoir une justice égale pour tous. Et il a eu cette phrase étrange sur George Floyd.
J'espère que George nous regarde de là-haut en pensant que ce qui arrive au pays est grandiose. Un grand jour pour tout le monde. Pour tout le monde. Et un grand jour pour l'égalité.
Commentaire de son rival, Biden. Les derniers mots de George Floyd, je ne peux pas respirer, résonnent à travers notre nation et le monde. Il est franchement méprisable que le président essaye de mettre d'autres mots dans sa bouche.
Philippe Corbet aux États-Unis pour RTL. De nouveaux rassemblements d'ailleurs sont attendus aujourd'hui aux USA. Chez le voisin canadien, le Premier ministre Justin Trudeau s'est joint hier à Ottawa à des milliers de manifestants pour dénoncer le racisme et la violence policière en posant un genou à terre pendant 8 minutes et 46 secondes, le temps de l'agonie de George Floyd. RTL, 10h et 9 minutes, c'est l'une des destinations favorites des touristes, américains et des autres. Le château de Versailles rouvre ses portes ce samedi après 2 mois de fermeture. Fréquenté par 80% d'étrangers, il compte d'abord sur les Français pour renaître avec des mesures sanitaires à respecter. Visite guidée avec vous, Monique Younès.
Visiter le château de Versailles aujourd'hui, c'est pouvoir enfin s'attarder autant qu'on le souhaite dans les pièces maîtresses, comme la galerie des glaces, la chambre du roi et de la reine, ou les grands appartements qu'on traversait jadis au pas de charge, serrés comme des petits soldats touristiques. Et puis, il y a les jardins et le parc, 850 hectares, remarquablement entretenus depuis 2 mois, tellement paisible qu'un couple de cygnes a installé son nid au bord du Grand Canal. Mais la plus belle surprise se trouve au Grand Trianon. Pour célébrer l'année France-Afrique, les jardiniers de Versailles ont planté quantité de palmiers, d'arbres à ananas et de fleurs exotiques qui donnent au bâtiment des allures de palais colonial. Il suffit de se poser sur les marches du Grand Péristyle et profiter de ce palais qui respire, un peu comme au lendemain d'une révolution qui n'aurait rien cassé, rien pillé, mais tout respecté.
Visite guidée par Monique Younès pour RTL et notez qu'Alain Baraton, le jardinier de Versailles, sera l'invité du journal inattendu à 12h30 avec Vincent Parisot. Les sports à présent et le football, le marché des transferts va s'animer à partir du 8 juin. Un mercato franco-français autorisé donc dès lundi. La Ligue de football a accédé à la requête des clubs, Nicolas Georgerot.
Ce dispositif était réclamé par les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 qui vont pouvoir intégrer les sommes dans l'exercice comptable de cette saison au 30 juin. Les transactions entre clubs français représentent habituellement un quart du montant total. C'est donc un moindre mal, selon Christophe Le Petit, responsable des études au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges.
Ça n'est qu'un palliatif et qu'une sorte de rustine, puisque le marché franco-français ne représente pas le plus gros du volume. Et le vrai juge de paix de ces activités-là, c'est bien le marché international.
Ce marché hexagonal va surtout profiter aux clubs de Ligue 2 ou à des clubs de l'élite, pas vraiment tournés vers l'international. Ils peuvent espérer vendre des joueurs à quelques grosses écuries de Ligue 1, mais on parle de sommes autour de 10, 15, 20 millions d'euros. Le mercato international, lui, n'est pas fixé. La FIFA réfléchit encore à plusieurs scénarios.
Nicolas Georgerot, et ne manquez pas, on refait le match à 18h30, 20h ce soir sur RTL. Denis Balbir aura comme invité Luis Fernandez, qui souhaite promouvoir une liste soutenue par des anciens internationaux lors des prochaines élections à la Fédération française de football. Les courses à présent, elles ont lieu cet après-midi à Laval. Les pronostics de Claude-Pierre Santi, le 9, le 13, le 12, le 14, le 3, le 2, le 8, le 11 et la dernière minute, le numéro 14, Feeling Cash. RTL, 10h et 12 minutes. Il est cash lui aussi, Vincent Perrault. La musique dans un instant.
Écoutez, j'allais justement vous dire, Yann, qu'en ce qui concerne le cash, bon, faut voir, mais pour le feeling, si en plus il est musical, j'ai tout ce qu'il faut.
Ça, j'en suis certain.
Je parie là-dessus plutôt que sur les chevaux, c'est pas mon trip ça.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Yann.